Cette semaine, dans nos conversations avec le géopolitologue Daniel Habert, on analyse la position de l'Europe dans le chaos mondial actuel. On écoute donc Daniel Habert au micro d'Asley Santoro.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Asley, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver comme chaque fois dans le cadre de nos conversations. Et avec vous, Daniel, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Europe parce qu'on se rend compte qu'actuellement, il y a une rafale de visites, d'allées et venues européennes. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit de la vision qu'a l'Europe de ce grand chaos mondial auquel on assiste actuellement? Et finalement, quelle est la position de l'Europe dans tout ça?
Alors, cette position de l'Europe, elle est compliquée à définir et elle nous intéresse en particulier parce que, d'une certaine manière, Israël se pose les mêmes questions. Quelle est la position de l'Europe dans le grand jeu mondial? C'est vraiment la question la plus importante et il faut la relier à ce qu'on a dit la dernière fois. La dernière fois, à conversation, on avait quand même noté une chose très importante, c'est que ce chaos mondial commence à devenir un peu plus clair. On sait que les différents conflits, l'Iran, la guerre en Ukraine, la confrontation entre les États-Unis et la Chine, tout ça ont fusionné, vous vous en souvenez, on l'a dit, et ça se traduit par un même différend entre deux camps. On a parlé des camps des démocrates et le camp des autocrates. Et puis, la dernière fois, on est allé plus loin et on a dit ce qu'on voit sous nos yeux, c'est l'initiative permanente de la Chine est constamment à l'initiative, pour construire au fond un nouvel ordre mondial. Et alors donc par rapport à ça, justement, qu'est-ce que peut faire l'Europe? Alors l'Europe, elle regarde déjà ce que font les Américains. Les Américains ont décidé de consolider leur position, notamment autour de d'accords stratégiques militaires. C'est la consolidation de l'OTAN. C'est aussi la consolidation d'accords stratégiques avec le Japon et avec Israël. Donc, si vous voulez, les Américains sont en ordre de marche sur le plan, je dirais, stratégico-militaire. Et donc, par rapport à ça, est-ce que l'Europe, elle peut avoir une position différente des Américains? C'est un petit peu ça la question qu'on est en train de traiter. Et la réponse est non. Par rapport à la guerre en Ukraine, les Européens sont obligés évidemment de rejoindre les Américains, d'abord de renforcer l'unité européenne, de renforcer l'unité de l'OTAN. Ils le font. Ils ont même été jusqu'à renforcer l'unité, le rapprochement entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a fait le Brexit, mais ils sont toujours nos voisins et ils sont dans la même mouvance que l'Europe. C'est l'Europe, c'est l'Union européenne plus la Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, il y a une consolidation de ce camp face à la Russie, mais face à la Chine, c'est un petit peu plus souple. Et en particulier, quand on demande aux Européens, est-ce que vous partagez l'analyse américaine de la Chine, qui est la Chine est communiste, elle est agressive, elle est dominante, elle a tendance dominatrice, donc il faut l'empêcher de se développer. Est-ce que les Européens partagent ce point de vue? Eh bien, pas tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui justifie toutes ces visites actuelles européennes en Chine. Pour les Européens, la Chine, c'est deux choses. C'est on peut soit coopérer avec vous, soit être en confrontation. C'est à vous de choisir, les Chinois. Et c'est un peu le langage que t'allais tenir tous les Européens en Chine et vont continuer à le faire. C'est nous, on est prêts à travailler avec vous, on est prêts à coopérer. La preuve, on vient avec des entreprises dans nos avions, on est prêts à continuer à travailler avec vous. Mais pour tester votre bonne volonté de non-confrontation, eh bien, on va vous poser la question sur l'Ukraine. Est-ce que vous êtes prêt à peser de tout votre poids pour mettre fin à la guerre en Ukraine? Donc ça c'est un petit peu le contexte dans lequel se passent toutes ces visites. Alors, la deuxième partie de la question, c'est pourquoi séparément? Bah, écoutez, rien ne peut faire plus plaisir d'abord à la Chine que de recevoir tous ses amis européens séparément, parce que c'est le rêve des Chinois de séparer, de casser ce bloc européen qui, quand il est ensemble, est ma foi, assez puissant. Et donc, ils n'ont pas eu besoin beaucoup, les Chinois, de se forcer pour accepter ces visites séparées. Bon, chaque grand leader européen a envie d'avoir sa rencontre avec Xi Jinping, qui est quand même le leader le plus puissant du monde. Donc, c'est très valorisant pour chacun de ces leaders. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la Commission elle-même, ou plutôt l'Europe elle-même, les institutions européennes se sont divisées, puisque Charles Michel est allé déjà et que Ursula est allée avec Macron. Donc, il y a eu même une division à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, ils viennent en ordre dispersé, ce qui est pour les Chinois pain béni. Et au fond, il y a une sorte de partage de travail dans le discours qui est tenu aux Chinois. C'est la carotte et le bâton, si vous voulez. Le discours doux et carotte est tenu par chacun des pays qui disent, vous voyez, on vient avec nos industriels, on est prêt à continuer à investir en Chine, à travailler avec vous, on vous isole pas, on vous prend comme faisant partie du monde entier. Et puis les paroles un peu bâton, un peu dures, elles viennent de la Commission européenne, notamment Ursula, qui avait fait un discours à la fin mars, qu'elle va répéter à Xi Jinping, qui est, écoutez, si vous faites quelque chose qui nous déplaît sur l'Ukraine, en particulier si vous livrez des armes à la Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine, ça sera un casus belli pour nous et vous aurez donc des réactions extrêmement fortes. Vous voyez, ça, c'est un partage un petit peu du travail. Alors voilà un petit peu le contexte dans lequel se déroulent ces visites.
Ok, donc pour ça, c'est le contexte, Daniel. On comprend peut-être un peu mieux maintenant la signification de tout ça. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit attendre de toutes ces visites?
Bon, alors, écoutez, comme toutes ces visites récentes, on s'est toujours posé la question, qui est le vainqueur? Ben, encore une fois, c'est la Chine. La Chine, c'est le vainqueur. Vous voyez, c'est la Chine, elle est dans la position qu'elle préfère. C'est l'empire du milieu. Le centre du monde qui reçoit ses amis, ses vassaux qui viennent faire allégeance. Et donc, on va les recevoir évidemment avec beaucoup de politesse et beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais évidemment, ça démontre encore une fois la centralité de la Chine et le fait que c'est la Chine qui est à l'initiative. Sur la vraie question que vont poser les Européens sur la guerre en Ukraine, et la Chine a une réponse très facile. Tout ce qu'on doit faire, on l'a déjà fait. Regardez, nous les Chinois, petit un, on ne livre pas d'armes, et je pense qu'ils vont continuer à dire qu'ils n'en livreront pas. On n'encourage pas la Russie à faire la guerre. Nous leur disons, c'est votre guerre et c'est pas la nôtre. Ça, c'est très important. C'est pas la guerre de la Chine, c'est la guerre de la Russie. Et on sait que les Chinois ne sont pas très heureux de cette guerre, donc ils ne l'encouragent pas. Et ils vont même plus loin, ils ont fait pression sur Poutine pour qu'il cesse de brandir le chantage nucléaire. Bon, ça n'empêche pas de temps en temps d'en reparler, mais dans un ton un petit peu moins agressif. Et on a même répété qu'il fallait faire très attention aux centrales civiles nucléaires, comme Zaporijjia, etc. Donc, si vous voulez, les Chinois font le job. Ils font le boulot de retenir les Russes. Et ils sont venus d'ailleurs avec un plan de paix. Il y a un plan de paix qui n'est pas un plan de paix réellement, mais qui est un plan qui dit arrêtons de nous déplacer. Donc, globalement, la réponse des Chinois aux Européens, c'est écoutez, nous sommes facteurs de paix. Et pendant ce temps-là, vous êtes alliés avec les Américains qui sont facteurs de guerre. Et en particulier, ce qui intéresse beaucoup la Chine, c'est de voir l'Europe ne pas participer à la guerre technologique. Parce que c'est ça qui fait peur aux Chinois, la guerre technologique. Est-ce que les Européens vont participer aux côtés des Américains, mais aussi des Japonais et d'Israël, à la rétention technologique? On va ne rien donner à la Chine en matière technologique. Et donc, je crois que tout le jeu européen-chinois aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on vous donne et qu'est-ce qu'on vous donne pas. Donc c'est un jeu sur lequel aujourd'hui on ne peut pas vraiment se prononcer. Ces visites, elles dont je crois, si on faisait une sorte de conclusion de ces conversations d'aujourd'hui, elles ont pour but de tester un petit peu par les Européens ce que veut la Chine entre travailler avec les Européens et aller jusqu'à la confrontation. Donc c'est un petit peu ce jeu encore ambivalent dans lequel on est. Et si on voulait conclure, on dirait que le jeu chinois, c'est de démontrer aux Européens que leurs intérêts vitaux sont pas les mêmes que les Américains. Donc en gros, pour la Chine, c'est séparer l'Europe du reste du camp occidental, du reste américain. Et pour l'Europe, c'est resté quand même globalement uni. Donc, après ces visites dispersées, essayer de trouver une position commune, position européenne forte et commune, de renforcer encore l'Europe pour avoir la possibilité d'avoir une ce que j'appelle l'autonomie stratégique de l'Europe. Est-ce qu'elle peut avoir encore une place un petit peu différente dans le monde que celle que les Américains veulent jouer face à la Chine? Oui, c'est encore des enjeux qui sont un petit peu flous. C'est une période de test et je pense qu'on n'a pas fini de voir la Chine à l'initiative. D'autres grandes réunions vont avoir lieu. On est dans un grand mouvement, un grand moment de mouvement diplomatique tout à fait intéressant, qui tourne évidemment autour de la guerre en Ukraine, mais comme celle-ci s'installe, beaucoup d'autres choses vont se passer qui donnera l'occasion de nous revoir pour nous reparler ensemble.
Évidemment. Merci beaucoup, Daniel Haber, pour vos éclairages et comme chaque fois, on vous souhaite une très très bonne semaine et à la semaine prochaine.